dans le Seigneur ce matin. Et les chants ce matin, c'était ça. Hein? Puis ça arrive là, à plusieurs reprises, c'est arrivé à plusieurs reprises qu'on voit que le Seigneur orchestre les chants en conséquence, en agençant avec ce qu'il veut dire à son assemblée. Merci de vous voir, parce que jeudi, je ne savais pas sur quoi on allait s'arrêter aujourd'hui. C'est la dernière dans la série sur la résolution des conflits. Mais le Seigneur a merveilleusement conduit, et je vous remercie pour ceux qui prient. C'est important parce que, comme je disais au Seigneur, « Seigneur, je ne veux pas prêcher n'importe quoi, je veux prêcher. » On pourrait prêcher beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais je veux prêcher ce que toi, tu veux dire à ton Église maintenant. Amen? Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit, vous savez. Le Saint-Esprit est essentiel à tout ce qu'on fait. Alors, ce matin, comme j'ai dit, on termine notre série sur la résolution des conflits. Et ce que le Seigneur m'a dirigé à regarder, c'était comment prévenir les conflits. Alors, on va voir, on a vu les principes bibliques qui nous orientent dans la façon de résoudre les conflits petits et grands. Et puis, vous savez, ces cinq R-là sont tirés directement des enseignements du Seigneur Jésus. Donc, le premier R, c'est quoi? Comme dans toute chose, rechercher la gloire de Dieu dans toute chose, tout ce qu'on fait, même quand on vit un conflit. Comment je vais agir? Comment je vais réagir? Comment mes paroles, mes actions peuvent rendre gloire à Dieu dans une situation qui vient souvent comme une bombe, hein, s'exploser dans nos vies. Un conflit, c'est comme une bombe, là. Ça vient, ça explose, ça fait plein de dégâts. Là, on est désemparé, on est comme abasourdi. Puis souvent, on oublie Dieu. Puis on réagit simplement en fonction de nos réactions naturelles, nos blessures, nos habitudes, etc. Mais c'est d'inviter Dieu, de faire confiance que Dieu est au-dessus de tout et d'inviter Dieu à venir se glorifier dans notre vie. Ça, c'est le premier principe qu'on a vu. Le deuxième, c'est que Jésus nous dit, pourquoi tu regardes au brin de scie qu'il y a dans l'œil de ton frère, puis tu ne retires pas la poutre qui est dans la tienne? Donc ça, c'est un principe qui est contre nature qu'on a vu. Le penchant naturel de tout cœur humain, c'est de faire quoi? Toi, tu as fait ça, toi, tu as fait ça, regarde ce que tu as fait, puis moi, je balaye ça en dessous du tapis. Mais Jésus dit non. Regarde d'abord ta poutre, et après, tu verras clair pour enlever le brin de scie dans l'œil de ton frère. Ensuite, on a vu que la question de pardonner. La question de pardonner, il y a deux éléments. Pardonner dans le cœur et l'acte de pardonner. On voit ça dans les Écritures. Pardonner dans le cœur, Jésus nous dit, je veux que vous pardonniez tout de suite. Ne pas laisser place à l'amertume de venir s'installer dans ton cœur. L'amertume, c'est un point d'appui pour Satan. Et de ne pas pardonner, de refuser de pardonner dans mon cœur, c'est un acte de désobéissance. C'est un péché, pareil comme tous les autres péchés, parce que Dieu veut qu'on pardonne. Son instruction, c'est pardonne. Jésus dit, si ton frère pêche sept fois contre toi, pardonne. Et on a vu dans la parabole du serviteur qui devait une somme astronomique à son maître, que son maître l'avait pardonné. Après ça, il est venu secouer l'autre par le cou, donne-moi le 200$ que tu me dois, que Jésus a dit, c'est cette chose-là, de refuser de pardonner, c'est grave. C'est grave aux yeux de Dieu. Et qu'il y avait des conséquences spirituelles. On a vu ça. Mais comment pardonner? Comment arriver à pardonner? Puis je vous invite encore une fois à aller sur le site pour écouter les enseignements. Comment arriver à pardonner? C'est quoi le pardon? C'est relâcher une dette. Le pardon, ça griche, hein? Excusez. Le pardon, c'est pas oublier, c'est pas juste minimiser, c'est pas rationaliser, c'est relâcher. Beaucoup de gens n'ont pas de la bonne notion sur c'est quoi pardonner. Mais comment on fait pour pardonner? Comment on fait pour relâcher la dette? On a vu que Jésus, Dieu, comment il a fait pour nous pardonner. Il a pris notre dette et il l'a cloué à la croix. C'est comme ça que Dieu a la seule façon que Dieu a trouvé pour te pardonner, toi, de tes péchés, c'est ça. Il a pris l'acte qui faisait état de tes péchés et il l'a cloué à la croix. Donc, c'est la meilleure façon pour nous de pardonner également. La personne qui nous a offensés, elle a comme une dette envers nous. On prend cette dette-là, même vous pouvez le faire physiquement, écrivez ça sur un papier, mais vous le prenez, puis en esprit, vous amenez ça à la croix, et où Jésus a déjà payé pour ça. Et comme ça, vous avez la liberté de relâcher la dette. Bon, on a encore des problèmes de audio, excusez. Ensuite, on a vu que par la suite, lorsqu'on a pu être libéré de toute rancune, on a relâché la dette, on s'est examiné nous-mêmes, on a même procédé à une confession. Hein, on a regardé ça, c'est quoi une bonne confession, en bonne et due forme. Bien, après ça, après avoir fait tout ça, là, on peut aller essayer de redresser l'autre. Vous voyez comment c'est inversé l'ordre de notre tendance naturelle. Notre tendance naturelle, ça serait quoi? De sauter toujours à redresser l'autre en premier. De dire, toi, t'as fait ça, toi, t'as fait ça, toi, t'as fait ça. Mais on voit que, en fait, redresser l'autre, ça vient après toutes ces choses-là. Et la façon est importante et l'attitude est importante. Jésus a dit, si ton frère pêche contre toi, va le redresser seul. Avec le but de quoi? Gagner ton frère. De gagner ton frère. Pas avec le but de le remettre à sa place. Pas avec le but d'avoir raison. Pas avec le but de te venger. Mais avec le but de gagner ton frère. Et finalement, on a considéré, après tout avoir fait ça, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est ça que Dieu a fait, puis il a arrêté là, il a dit, OK, William, je te pardonne, that's it. Enchanté de t'avoir connu. Non, on a vu qu'après que Dieu nous ait pardonné, après que Dieu a tout fait ça, il a cloué tes péchés à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il te bénit. Il t'a adopté dans sa famille. Il te bénit. Et Jésus nous demande de bénir nos adversaires, de ne pas maudire, mais de bénir. Et on a vu ça la semaine passée. Bénir nos adversaires, vraiment, oui, vraiment. Vraiment, chercher leur bien en acte, mais aussi en parole. Bénissez, il dit, et ne maudissez pas. Maudire, c'est de prononcer une malédiction par la bouche. Et on a vu la semaine passée, encore une fois, vous pouvez aller sur le site, écouter l'enseignement, que bénir par la bouche, c'est de dire quelque chose qui vient de Dieu. Il y a des bénédictions spécifiques selon la situation. On a vu tout ça. Wow, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, ça. Alors, ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de maintenant comment prévenir. C'est beau tout ça. Et en passant, Robert l'a dit, c'est beau de connaître tout ça, mais c'est impossible à l'œil du Saint-Esprit. Amen. Il y a une mauvaise connexion quelque part, là. Je ne sais pas. Je pense qu'on va oublier. Ouais, je vais changer de micro. OK. Un, deux. Plus fort un peu. OK. Bon. Au Canada. Non. c'est beaucoup mieux de prévenir un accident industriel que d'être face à des morts, des gravement blessés, non? C'est autant vrai pour les conflits. Mieux vaut une once de prévention qu'une livre de guérison, on dit. Mais comment faire pour prévenir les conflits? Bien, heureusement que dans la parole, puis je suis excité de vous partager ça ce matin, il y a des principes bibliques qui peuvent nous aider. Je vous invite à tourner dans vos Bibles ou dans vos téléphones à Philippiens 4. Philippiens 4, 4 à 9. Alors, c'est Paul qui écrit, et je lis dans la version du Sommeur. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Vous voyez comment ça agence bien avec les chants ce matin? Faites-vous connaître par votre amabilité, votre douceur envers tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Mais on va reculer au verset 2. Regardez dans quel contexte Paul dit ces choses. Regardez au verset 2. Il dit « Je recommande à Évodie et à Syntyché de vivre en parfaite harmonie. » Ces deux femmes dans l'église de Philippe, de vivre en parfaite harmonie l'une avec l'autre, selon le Seigneur, je les y invite instamment. Toi, mon fidèle collègue, c'est qui ça? C'est un ancien berger de l'église. Je te demande, viens leur en aide, car elles ont combattu à mes côtés pour la cause de l'Évangile, tout comme Clément et mes autres collaborateurs, dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Prions. Oui, éternel Dieu, créateur souverain du ciel et de la terre, Père tout-puissant, glorieux, nous nous courbons devant toi, Seigneur, ce matin, pour te révérer, pour t'adorer, pour être à ton écoute, Seigneur. Comme ta parole dit, l'Éternel est dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Alors, Seigneur, on veut faire silence devant toi ce matin. On veut écouter ta voix seule, Seigneur Jésus. On repousse en ton nom toutes les autres voix. Viens faire une œuvre dans nos cœurs par ton Esprit Saint à travers ta parole. Oui, change notre pensée, restaure notre cœur et viens nous conduire dans les sentiers de la justice pour ton nom. Amen. Donc, nous avons ces deux sœurs, Évodie et Sainte qui avait collaboré avec l'apôtre dans la mission de Jésus, des co-ouvrières dans le Seigneur, des dames d'une certaine maturité spirituelle, évidemment. Et Paul les exhorte à vivre en harmonie selon le désir du Seigneur. Bien évidemment, quelque chose s'était passé, un conflit assez grave pour que ça n'en vienne aux oreilles de Paul, qui était alors probablement emprisonné à Rome. OK? Rome, il est à des, je ne sais pas combien de centaines ou de milliers de kilomètres, mais ça vient à ses oreilles, et Paul est sûrement vexé par ça. Des sœurs qu'il aime, tous les deux, des sœurs fidèles, des chrétiennes, des combattantes dans la foi, et là, ces deux sœurs-là sont en conflit. Ça n'arrive pas de nos jours, hein? C'est impossible. Alors, Paul les exhorte à être d'une même pensée, comment il dit ça là, dans ma version, de vivre en parfaite harmonie selon le désir du Seigneur, selon l'instruction du Seigneur. Et il demande à un berger, un pasteur, de les aider, de venir en aide, de faire un travail pastoral avec ces deux sœurs-là, de venir à côté d'elles pour les aider à résoudre le conflit. Est-ce que Paul donne des indices sur comment y arriver? Bien, c'est ça qui est merveilleux que j'ai découvert, c'est que dans les versets qui suivent, il y a des vérités cachées là, bien, qui sont profondes, mais simples, mais profondes, pour nous aider à prévenir les conflits. Les conflits qui éclatent dans nos relations ont parfois rapport avec des choses matérielles, mais elles prennent feu en rapport avec notre être intérieur. Les émotions qui nous envahissent nous poussent à réagir à une situation. Alors, deux sœurs, collaboratrices dans l'œuvre du Seigneur, sûrement très bien versées dans les Écritures, mais ils sont en conflit. Et puis, ils ne vivent plus une relation saine. Pourquoi l'apôtre, c'est l'apôtre Paul, pourquoi l'apôtre prend-il la peine d'écrire, d'adresser cette situation? Ben, premièrement, parce qu'il les aimait toutes les deux. Il avait travaillé avec elles. Il voulait leur bien aussi. Et parce que cette situation-là reflétait mal la vérité centrale de l'Évangile qui est la réconciliation. Christ, Dieu était en Christ, nous dit la parole, faisant quoi? Réconciliant le monde avec lui-même. L'Évangile, c'est une histoire de réconciliation. Adam et Ève, en parfaite harmonie dans le jardin avec Dieu, en communion, merveilleux, le péché vient, quoi? Briser la relation. Donc, l'histoire de la Bible, c'est l'histoire de la réconciliation entre Dieu et l'homme, pardon, qui a été amorcée par Dieu et accomplie par Jésus-Christ à la croix. Et si on est en conflit les uns avec les autres, ceux qui se réclament de Jésus-Christ, ceux qui portent le nom de Jésus-Christ, ça porte atteinte à la réputation de Jésus-Christ. On ne peut pas tolérer cette situation parce que ça déshonore l'œuvre rédemptrice de Christ à la croix, qui est venue pour nous réconcilier avec Dieu et les uns avec les autres. La parole dit qu'il a brisé le mur de séparation qui séparait ceux qui étaient sous la loi et ceux qui n'étaient pas sous la loi pour n'en faire qu'un, n'est-ce pas? Pour n'en faire qu'un. Et la Bible nous dit qu'en Christ, nous sommes un. Nous sommes un dans le corps de Christ. Nous sommes un. Donc, de vivre une situation de conflit irrésolu porte atteinte à ce principe central de la parole de Dieu, de l'Évangile. Non seulement ça, mais nos relations sont d'une grande importance pour Dieu. Tu ne peux pas vivre ta vie, là, et je m'excuse, là, mais tu ne peux pas vivre ta vie seul à lire la parole de Dieu, à prier à Dieu tout seul, puis à accumuler plein de connaissances de la Bible, puis penser que tu es en train de vivre la vie d'un disciple de Jésus-Christ. Non. La vie de Jésus-Christ se vit en communauté. C'est là que tout se passe. Et les relations les uns avec les autres, aimez-vous les uns les autres, priez pour les uns les autres, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné, c'est là que ça se vit. Et Dieu est intimement intéressé à comment on se traite, parce que nous sommes ses enfants. Imaginez, vous avez des enfants qui se chicanent, qui se détestent, qui veulent se tuer. Comment vous allez vivre ça? Mal, hein? En tant que parent, vous allez dire, ça se peut pas, là, je peux pas accepter ça. C'est mes enfants, je les aime, je veux qu'ils s'aiment. Pas vrai? Amen. Dieu, c'est la même chose. Nous sommes ses enfants. Il nous aime. Il veut qu'on s'aime. C'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant que les choses paraissent bien. Non. C'est pas suffisant, frères et sœurs. Il faut, la Bible nous dit, aimez-vous ardemment les uns les autres. Moi, quand j'étais adolescent, on était une famille de croyants, mais souvent en chicane, malheureusement. Un bon samedi soir, on est en chicane, mais une des pires chicanes que j'ai jamais vécues en famille. On se gueulait entre nous. C'était épouvantable. Je pensais que la maison allait exploser. Là, tout d'un coup, ding-dong! Ding-dong! Et là, oh, quelqu'un ouvre la porte, je ne sais pas si c'était moi. On avait été visiter une église peut-être un mois avant dans le secteur, et puis eux, il y avait un programme de suivi des gens qui étaient venus, et puis c'était un ancien de l'église qui venait nous rendre visite. Là, on ouvre la porte, oh, c'est un ancien de l'église qu'on vient de visiter. Ah! Tout le monde met son petit air de chrétien, chérubique. C'est-tu un mot, ça, chérubique? Et on met notre bel air de chrétien. Non, c'est pas suffisant. Donc, Paul, tel un bon berger, prend le temps d'adresser la situation et nous découvrons dans les versets qui suivent le secret de comment devenir une personne qui vit des relations harmonieuses. J'ai hâte de partager avec vous ce que le Seigneur m'a enseigné dans sa parole, des vérités tellement simples, mais à la fois tellement profondes et puissantes pour transformer nos cœurs et nos vies. Et comme j'ai l'habitude de faire, je vous donne le punch au début, la phrase sommaire. Si vous retenez juste une chose, retenez ça. La meilleure façon de prévenir les conflits, c'est de me laisser transformer le caractère par le Seigneur Jésus. Plus je me réjouis en lui et le laisse me guérir de ma colère et de mon anxiété, plus je serai une personne joyeuse, douce et reconnaissante qui sème la paix autour de moi. Ah, merci mon frère. Donc, restons dans Philippiens 4. Paul, après avoir exhorté Évodie et Syntyché de vivre harmonieusement selon le Seigneur et d'exhorter son collègue de les aider, il poursuit avec ce verset. Pourquoi ça? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je vous le répète. Réjouissez-vous. Dans la version du sommaire, c'est merveilleux aussi. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Je le répète, soyez dans la joie. Donc, comment faire pour prévenir les conflits? Le premier point, c'est de me réjouir constamment dans tout ce que le Seigneur est pour moi. Puis là, j'ai commencé une liste de choses que l'Éternel est pour moi. L'Éternel est la source de la vie éternelle, pas vrai? Jésus dit à ses disciples, après qu'ils soient revenus d'une mission, qu'ils avaient chassé les démons, guéri plein de monde, etc., vu des choses extraordinaires, il était dans un état d'exaltation. Jésus dit, c'est bien, mais réjouissez-vous pas de ce que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous plutôt, quoi? Que vos noms sont inscrits dans les cieux. C'est ça, c'est une source de grande joie, ça. C'est une source de grande joie de savoir que ton nom est inscrit dans le ciel, dans le livre de l'agneau. Amen. En fait, avant d'aller plus loin, j'ai une question pour vous. Il y a quelques semaines, je réfléchissais à ça, puis j'ai posé la question à ma famille. C'est quoi la joie? C'est quoi la joie? C'est difficile à définir, la joie. Hein? Avez-vous une définition? Être en paix avec soi, OK. Un sentiment de légèreté, OK. Oui, ça c'est bon, ça. J'aime ça parce que souvent quand j'ai de la difficulté à définir quelque chose, je prends le contraire. Vous allez voir tantôt. Mais là, je l'ai marqué là, évidemment. Sentiment qui est contraire à la tristesse, OK? Il y a quelqu'un d'autre, Jacqueline? La joie? Non? Quelqu'un d'autre, Jacqueline? L'autre Jacqueline? Un état de surexcitation. OK. Y en a-t-il d'autres qui se lancent? C'est pas évident, hein? OK, un sentiment qui vient de posséder quelque chose de très précieux, ça c'est peut-être une source de joie, oui, effectivement. Bien, écoutez, c'est toutes des bonnes choses. Moi, ce que j'ai vu, c'est un état d'exaltation qui soulève l'esprit d'une personne, un sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude. Wow! Maintenant, la question est la suivante. Quel est le rapport entre me réjouir dans tout ce que le Seigneur est pour moi et prévenir les conflits? Bien, c'est que le contraire d'un sentiment de satisfaction, c'est l'insatisfaction. L'impression qu'il te manque quelque chose, soit en possession ou soit dans ta personne, que, que tu es à quelque part déficient d'une certaine façon. Et cette chose-là, ce sentiment-là d'insatisfaction ou de déficience peut te conduire à devenir une personne exigeante. Ça te prend ci, ça te prend ça. Ça te prend une réalisation, ça te prend une position, ça te prend une possession, ça te prend une capacité, ça te prend quelque chose pour combler, pour parer à ce sentiment d'infériorité ou de déficience ou d'insatisfaction. Et qu'est-ce qui va se produire? C'est que quand tu promènes à travers la vie avec ce sentiment-là, ça va produire des conflits. Parce que toi, tu as besoin de ça et l'autre t'empêche d'avoir ça éventuellement. Tu vas arriver dans une situation où ce que tu as besoin, ben l'autre ne veut pas te le donner. Et tu vas réagir, ça va causer des conflits. Et c'est pour ça la grande sagesse de Paul de dire « Réjouissez-vous toujours, à tout instant, dans tout ce que le Seigneur est pour toi. » Arrête de regarder alentour et regarde à Dieu dans tout ce que le Seigneur est pour toi. Donc ici, on voit que Dieu est la source de la vie éternelle, c'est le contraire de la mort. Ensuite, il est la source de la lumière. Hein? Dans Ésaïe 9, 1 à 2, c'est la prophétie concernant le Seigneur Jésus. Et il dit, le peuple hein, qui demeurait dans les ténèbres, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont vu une grande lumière. La lumière resplendit. Ceux qui habitaient le pays dominé par les épaisses ténèbres. Et tout de suite, il enchaîne, oui, Éternel, tu fais abonder d'allégresse. Abonder d'allégresse parce que la lumière est venue. Récemment, on était dans le sud, un voyage dans le sud, puis quand les gens arrivent là, la première journée à la plage, là, wow, le soleil, hein? C'est wow. Tout le monde est heureux, c'est la fiesta. Le soleil nous réjouit, c'est vrai, la lumière nous réjouit. Bien, pense au contraire, comme notre frère dit, les ténèbres. Les ténèbres, si tu es dans les ténèbres tout le temps, là, ouh. C'est pas pour rien qu'il y a des gens qui font des dépressions saisonnières. La lumière. Et Dieu est notre source de lumière. Dans le psaume 97 également, il nous est dit, au verset 11 et 12, « La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. » La lumière et la joie vont ensemble. En passant, le mot « joie », ça a lieu au moins 83 fois dans les psaumes. Les psaumes sont remplis du mot « joie ». Donc, quand on dit qu'on réjouit dans tout ce que le Seigneur est pour nous, il est la vie éternelle, la lumière, il est la source de toute bénédiction de faveur. Dans le psaume 4, il nous est dit au verset 7 et 8, « Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face. » Ô Éternel, encore fois, la lumière, tu mets dans nos cœurs plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. C'est la bénédiction. Le Seigneur fait luire sa face hein, sur eux. Le chant de Marie dans Luc 1. Il y a beaucoup, beaucoup de références. On n'aura pas le temps de toutes les regarder, là, mais... Ça m'a vraiment, vraiment édifié quand j'ai fait la liste. L'ange entra chez elle et lui dit, « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Réjouis-toi. » Pourquoi? Parce que Dieu t'a béni. Dieu t'a accordé sa faveur. La faveur, la bénédiction de Dieu apporte quoi? La joie. La joie. Réjouissez-vous. Le contraire de la bénédiction, c'est quoi? Ben, la malédiction, le malheur, on comprend que ça, là, c'est pas réjouissant, c'est triste. OK? Réjouissez-vous encore. Il est le garant de notre avenir, de notre glorieuse espérance. Dans le psaume 16, au verset 9, c'est un psaume que j'ai appris par cœur. David dit, « Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. L'espérance de la vie éternelle, hein, c'est une grande source de joie. La vie éternelle, l'espérance à venir. Dieu est notre le garant de cet avenir glorieux. Dans Romains 15, au verset 13, pardon. Qu'est-ce qu'il est dit? Que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix. Dieu, l'auteur de toute espérance, vous comble de joie. L'espérance apporte la joie. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ces choses-là sont discernées par la foi, hein? Par la foi. Jude, le petit livre de Jude, juste avant Apocalypse, il y a une bénédiction extraordinaire à la fin de Jude, au verset 24. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, une autre version dit « exultant de joie ». C'est ça notre avenir, c'est ça notre espérance, de se présenter devant Dieu sans aucune reproche de la part de Dieu. Et qui peut accomplir ça? C'est Jésus qui peut nous faire, qui peut nous garder, nous préserver de toute chute et nous réserver cette glorieuse espérance. Dans 1 Pierre, et Pierre en parle aussi, 1 Pierre, chapitre 1. Je n'ai pas l'habitude de vous citer beaucoup, beaucoup, beaucoup de versets comme ça, mais je pense que ça vaut la peine. 1 Pierre, chapitre 1, 4 à 6. Hein? Pierre, il parle à des gens qui souffrent sous des persécutions, etc. « Béni soit Dieu le Père, verset 3, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre quoi? Votre joie. Votre joie. L'espérance, l'héritage glorieux à venir. Réjouissez-vous dans tout ce que le Seigneur est pour vous. Il est tout pour vous. Il est tout ça pour vous. Le contraire, c'est quoi? Le désespoir. Le Seigneur est celui qui me donne ma valeur. Hein? Le père du fils perdu, dans le 15, la parabole du fils perdu, quand le fils aîné ne veut pas rentrer dans la fête, il sort, on l'a vu dernièrement, il sort pour raisonner avec le fils aîné. Le fils aîné, il est fru, il pense que c'est une injustice. Mais son père, il dit, écoute, tu es toujours avec moi. Mais il fallait se réjouir. Parce que mon fils que voici est mort et revenu à la vie. Donc, il avait une grande estime pour le fils qui était perdu. Le fils avait une grande valeur pour lui. Luc 15, je ne me rappelle plus c'est quoi. On va aller voir Luc 15, 9 à 10. Ah oui, ben c'est ça. C'est dans la même série de paraboles. Hein. Il y a trois paraboles. La pièce de monnaie perdue, la brebis perdue, puis le fils perdu. Et dans la première, c'est la femme qui perd un morceau d'argent. Elle balaye toute la maison et lorsqu'elle trouve la pièce de monnaie perdue, elle se réjouit, elle dit à toutes ses voisines, « Regarde ce que j'ai trouvé, regarde! » Elle est dans la joie. Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé quelque chose de précieux. Et pourquoi Jésus a raconté ce parabole-là? C'est pour dire comment il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Donc, pour Dieu, nous avons de la valeur. Nous sommes précieux. Est-ce que ça peut nous réjouir, ça? Mais hein, quand tu es dévalorisé, qu'est-ce que ça fait? La déprime, la tristesse. Mais quand tu es valorisé, qu'est-ce que ça te donne? La joie. La joie. Ah, c'est incroyable. Regardez encore la vérité. La vérité est une source de joie. La parole, hein? Dans la parabole du semeur, Jésus dit que le semeur, il lance la graine. Les graines qui tombent dans le sol qui est rocailleux, là, ben, ça lève vite, mais ça ne dure pas. Il dit que c'est les gens qui reçoivent la parole avec joie, mais ça ne porte pas de fruits. Mais pourquoi ils reçoivent la parole avec joie? Parce que c'est une vérité. La vérité apporte la joie. Dans Luc 10, 21, Jésus s'est marqué qu'il est transporté de joie parce qu'il dit, « Père, je te loue de ce que tu as révélé ces choses-là à des petits-enfants et que tu les as cachées aux grands. » Jésus se réjouit de la révélation de la vérité de Dieu à des petits-enfants. La parole de Dieu apporte la joie. 1 Thessaloniciens 1, 6, Paul dit aux Thessaloniciens qu'il se rappelle, lorsqu'il a annoncé l'Évangile à Thessalonique, au verset 6, il dit, « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie. » La joie. Les Thessaloniciens ils étaient joyeux d'entendre la vérité. Alors, la parole de Dieu, c'est la vérité. Et Jésus est la vérité. Jésus est la parole de Dieu incarnée. Réjouissez-vous dans tout ce que le Seigneur est pour vous. Réjouissez-vous constamment. Alors, là, écoutez, on va passer parce que il y en a tellement. J'ai la force, il est ma force. Il est mon abri, ma sécurité, ma délivrance. Il est mon trésor. C'est ça que Lorraine disait tantôt. Quand on trouve quelque chose de quand on a quelque chose de vraiment précieux, ça nous réjouit. Hein, la parabole du trésor dans le champ. Et il est ma justice aussi. Quand la parole de Dieu dit que Dieu nous a déclarés justes, c'est réjouissant, pas vrai? Quand tu es faussement accusé, là, injustement, es-tu content? Non, hein? C'est le contraire. Tu es frustré, tu es déprimé, tu es triste. Mais si tu es déclaré juste, bien, ça apporte une joie. Il y a une joie là-dedans. Juste aller voir dans le psaume 35, 27, juste pour vous donner cette dernière référence-là. Psaume 35, pardon, verset 27. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, qu'ils disent sans cesse, exalté soit l'Éternel. L'amour se réjouit de quoi? La vérité et la justice. Il ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour se réjouit de la justice. C'est une source de joie. Et il y en aurait encore et encore et encore. Maintenant, quel rapport entre le fait de me réjouir constamment dans tout ce que le Seigneur est pour moi et les conflits? C'est que lorsque je trouve en lui ma source de joie, ma source de plénitude, je suis comblé dans cette relation et je n'ai pas besoin de chercher ailleurs pour la satisfaction de mes désirs, de mes attentes. Moïse a écrit dans le psaume 90, « Rassasie-nous », ça veut dire hein, « comble-nous, remplis-nous tous les matins de ton amour ». Wow! « Rassasie-nous tous les matins de ton amour et nous crierons de quoi? De joie, plein d'allégresse tout au long de nos jours. » Moïse avait compris. À chaque matin, là, frères et sœurs, à chaque matin, c'est important d'amener ton âme en présence de Dieu et de te laisser rassasier par l'amour de Dieu. Te rassasier de l'amour de Dieu. Moi, je dis au Seigneur tous les matins, souverain créateur du ciel et de la terre, merci de m'avoir choisi. Merci de m'avoir aimé. Merci de m'avoir adopté dans ta famille. Merci de m'avoir déclaré juste. Merci que tu me soutiens. Merci de me donner ton esprit. Merci. Et j'amène mon et je veux aligner tout mon être avec Dieu. Je veux aligner mon corps, mon âme et mon esprit avec mon Créateur, mon Papa céleste. Et amener mon âme dans la présence de Dieu, dans la joie de l'Éternel. C'est ça que Moïse dit ici. Rassasie-nous tous les matins de ton amour et nous crierons de joie, plein d'allégresse tout au long de nos jours. David dit dans le psaume 84, « Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. » Un jour. C'est quoi les parvis? Ben, c'est une référence au temple. Il y avait le temple, puis après ça, il y avait le parvis. C'est comme la cour extérieure. Il dit juste être dans le parvis, dans l'entrée. Ouais, dans l'entrée. C'est meilleur passer une journée là que mille ailleurs. Il dit dans le psaume 27, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Pour contempler la magnificence de l'Éternel dans sa beauté et pour l'admirer dans son temple. » La version Sommeur, pour chercher à le connaître dans sa demeure. Je demande à l'Éternel une chose. Contempler. Être rassasié. Se réjouir dans le trésor le plus grand, le plus merveilleux du monde, Dieu lui-même. Amen. On a vu que, dans notre série sur les conflits, que ce sont les désirs du cœur qui causent les conflits. Jacques nous dit ça. Jacques nous dit, d'où viennent vos conflits? De vos désirs. Soit un désir normal, qui est exagéré, qui est trop intense, ou un désir pas normal, un désir mauvais désir. Soit un désir légitime, merci, c'est ça le mot que je cherchais. Mais les désirs, les attentes, les exigences sont souvent la raison du conflit. Je veux dire, moi, après 35 ans de mariage, j'ai réalisé, puis on le sait, nous autres aussi, les conflits, souvent, là, c'est à propos d'une niaiserie. C'est une niaiserie, l'affaire qui a parti le conflit, là. Mais c'est nos réactions, nos désirs, nos exigences, nos attentes qui amènent vraiment le conflit. Si mes désirs sont comblés par Dieu, parce que je me réjouis en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour moi, je serai riche, je serai comblé. Mettons, tu es au restaurant en souper d'amoureux. Et là, la serveuse fait une erreur importante sur l'addition. Mais tu te rends compte juste en arrivant à la maison quelques heures plus tard ou le lendemain. Au lieu de te coûter 50 $, elle t'a chargé 75. Que feras-tu? Maintenant, supposons que tu vis la même situation, mais tu t'appelles Bill Gates ou Elon Musk. Que feras-tu? Alain, tu défais toute mon illustration. Là, je suis choqué contre toi. Là. Je suis en conflit avec toi, Alain. Non, mais c'est pour dire que, regarde, peut-être que si tu as des milliards et des milliards de dollars, un petit erreur comme ça sur la facture, tu vas dire, oh, laisse faire, elle n'a plus besoin que de moi. Hein? Mais si tu es pauvre, là, pense que tu vas retourner, puis tu vas avoir tendance à vouloir chialer la serveuse. C'est ça l'idée. Si tu es comblé par Dieu, tu es riche, richissime, tu es multimilliardaire avec Dieu, là. Avec Jésus, tu as tout. Qu'est-ce que ça va faire quand tu es froissé par quelqu'un ou tu n'as pas ce que tu veux vraiment? Tu vas dire, de toute façon, j'ai tout dans le Seigneur. Pas vrai? C'est ça la dynamique. J'exhorte Evodie et Sintiki d'être en harmonie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est quand on ne se réjouit pas dans le Seigneur qu'on devient exigeant les uns envers les autres, pas vrai? Une personne qui se réjouit en Dieu est comblée. Un autre exemple, le feu. Je constate que mon ami Éric, le pompier, n'est pas là, peut-être qu'il était justement à l'incendie hier soir. Mon ami Éric, il nous dirait, ça prend quoi pour le feu? Ça prend trois éléments. Savez-vous, c'est quoi les trois éléments? Tu as juste le droit de dire un, toi, Robert. Hein? OK, ça prend l'oxygène. Ça prend un combustible. Et ça prend la chaleur. Tu as soufflé la réponse. OK. Ben, bravo, bravo. Ça prend trois éléments. Un combustible, l'oxygène et la chaleur pour qu'un feu parte. Bien, une personne qui se réjouit en Dieu, là, c'est comme une personne qui vit, comme on a dit, les bénédictions de Dieu, la pluie. La bénédiction de Dieu est souvent comparée à la pluie dans la Bible. Et elle se promène avec une douce pluie. Vous savez la douce pluie de l'été, là? Est-ce que vous faites comme moi, des fois, vous sortez dehors juste parce que c'est le fun d'être sous une douce pluie chaude, là? Bien, dans les pays chauds, c'est sûr qu'ils font ça. On le voit ici dans l'image, une petite fille qui se promène, elle joue, elle aime la pluie. La personne qui se réjouit en Dieu, qui est comblée par Dieu, est comme une pluie bienfaisante qui rafraîchit et qui éteint les feux avant qu'elle ne s'enflamme. On a dit comment faire pour prévenir des conflits, mais finalement, on se rend compte que c'est comment être. C'est comment être pour prévenir les conflits. Être une personne qui se réjouit, qui est comblée. Deuxième point qu'on voit dans le texte, au verset 5, Philippiens 4, 5, « Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. » OK, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, encore une fois, je vais vous demander, c'est quoi votre définition de douceur? Que votre douceur soit connue de tous les hommes. C'est quoi la douceur? Ah, mais c'est Véronique. Ah, oh, wow, super. Bravo. J'ai entendu amabilité. Oui. Amabilité, patience, OK, douceur, l'humilité, exact, grâce, oui, ce sont tous des parties de la douceur, bonté, exactement, le contraire de la colère, exactement. La Bible, Darby dit le caractère. Bien, c'est Darby qui dit le caractère d'un homme qui n'insiste pas sur ses droits. Oui, Laurence, tu allais dire?
En colère, je me transforme, je suis comme en lion, mais que je leur demande pardon, j'aimerais ça être comme un papillon. Tu sais,
OK. Le Seigneur change un lion en papillon. Est-ce que la douceur, c'est la faiblesse? Il ne faut pas confondre les deux. Quelqu'un qui est doux, le Seigneur Jésus, il dit « Je suis doux et humble de cœur ». Il n'était pas faible, Jésus. Là. Il était capable de reprendre, mais il était doux. Il était la personne la plus douce. Il était la douceur incarnée. Et c'est le contraire de la colère, Élise le dit. Vous savez, la colère peut venir habiter notre cœur et empoisonner toute notre vie. La colère, mais d'où vient la colère? Bien, si on part de la Bible, la colère est une émotion, est une réaction normale de Dieu contre l'injustice. Hein? La colère de Dieu se révèle contre toute injustice, nous dit Romains 1. Dieu est le créateur des êtres humains. C'est lui qui a créé nos émotions. Et nos émotions, donc, viennent de Dieu. Et la colère chez l'être humain est aussi une réponse à l'injustice, à l'image de Dieu, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc, la colère se manifeste lorsqu'on vit l'injustice. La colère de Dieu entre en action face à l'injustice lorsque ses principes sont bafoués, mais sa colère, elle est toujours juste. Elle est toujours valide. Et nous réagissons avec colère à des injustices réelles ou perçues. Perçues, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'injustice, mais on perçoit la situation comme étant injuste. On ne vient pas au monde colérique. On ne vient pas au monde colérique. Les personnes qui disent « Ah, je suis colérique de nature » tentent de s'esquiver de la responsabilité de leurs émotions et de leurs réactions. Ils ignorent peut-être la source de leur colère, mais il y a une source. Quand la colère vient habiter ton cœur, quand la colère vient prendre le contrôle, te caractériser, c'est parce qu'il y a une source. Et c'est souvent les blessures, les injustices dans notre enfance qui ont produit une colère qui vient nous habiter. Mais la Bible nous enseigne que la colère de l'homme n'accomplit pas quoi? La justice de Dieu, Jacques 1, 26. Voyez-vous là comment il fait le rapport avec la justice? La colère n'accomplit pas quoi? La justice. Fait qu'il y a un rapport entre la colère et la justice. Mais la colère des êtres humains n'accomplit pas la justice de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a souvent une mauvaise interprétation des événements, des situations. On perçoit des injustices là où il n'y en a pas. Ou encore, on peut grossièrement les exagérer. Ensuite, pas seulement ça, mais notre réaction de colère va être exagérée. Et plutôt que de vouloir redresser avec douceur, comme on a vu, on va chercher à se venger. Tu m'as fait ça, je vais faire pire. C'est pour ça que Dieu nous avertit, « Hey, les amis, les enfants, à moi la vengeance. Touchez pas à ça. Ça m'appartient. » Il faut reconnaître que lorsqu'on se venge ou on veut se venger, on est en train de toucher à quelque chose qui ne nous appartient pas. Touche pas, c'est à moi, Dieu dit. Et si tu touches, bien tu pêches contre Dieu. À moi la rétribution. Et Paul dit dans Philippiens 4, si on retourne dans notre passage, il dit « Que votre douceur soit reconnu de tous, le Seigneur est proche. » OK. Pourquoi le Seigneur est proche? C'est quoi le lien? Peut-être justement parce que si tu as laissé Jésus guérir ton cœur et que tu as confiance qu'il est proche de toi, qu'il s'occupe de toi, que lui va faire justice dans son temps et à sa manière, tu seras plus enclin à ne pas prendre les choses en main, à ne pas céder aux anciennes habitudes d'éclater en colère lorsque tu perçois une injustice. Le Seigneur est proche. Je n'ai pas besoin de réagir. Je n'ai pas besoin de me défendre à outrance. Le Seigneur est là pour me protéger. Le Seigneur est mon bouclier et ma force. De qui aurais-je peur? Il faut aussi aller à Jésus avec nos blessures d'enfance et lui parler de ces blessures-là pour qu'il puisse parler dans notre cœur et les guérir la chose à la source. C'est bien qu'on puisse contrôler notre colère. Hein? Le contrôle de soi, ça c'est bon, c'est nécessaire, c'est un fruit de l'esprit. Et moi, quand j'étais jeune, j'étais colérique et je pensais au début que j'étais comme ça, j'étais colérique. Je me battais souvent à l'école, je me battais tout le temps avec mon frère, j'étais colérique, mais non. J'étais colérique parce que mon frère me détestait, il était jaloux avec moi, puis il me faisait toujours du mal, toujours. Me rabaisser physiquement, verbalement, devant tout le monde, etc. Et je voulais le tuer. Je voulais le tuer. Il fallut que j'apprenne à contrôler. Non pas moi, mais que je criais à Dieu, aide-moi à contrôler. Et le Seigneur l'a fait. Le Seigneur a fait que, par l'Esprit, j'ai réussi à contrôler ma colère, mais la colère était toujours là en dessous. Était toujours là en dessous. Et c'est juste quand on était à cœur que le Seigneur a vraiment adressé la source et il a guéri et j'ai été restauré de ça. J'avais presque plus besoin de contrôler ma colère parce qu'elle ne montait pas. Il n'y avait plus de feu qui montait dans mon cœur. L'expression « le Seigneur est proche » peut aussi faire allusion au fait qu'il revient bientôt, qu'il est proche dans ce sens-là, que ce retour est venu, est proche, sa venue, et qu'il s'occupera de toute injustice. Hein? Ça, c'est vrai, quand le Seigneur Jésus va revenir, il va s'occuper de toute injustice. Aussi, on veut que notre attitude soit bonne, qu'elle fasse honneur, comme on a vu, à son retour, que notre amabilité, qu'on ait un bon témoignage. Mais je crois que le sens premier est vraiment qu'il est là, maintenant, il est proche, là, il te protège, il s'occupe de toi, tu n'as pas besoin de réagir, tu n'as pas besoin de te mettre en colère. Le Seigneur Jésus dit dans Luc 18, suite à la parabole qui raconte sur le juge injuste, mais qui finit par céder à la veuve là, insistante et qui la rend justice, il dit, « Pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit et qu'il tardera à leur venir en aide? Moi, je vous le dis, il défendra leurs droits promptement. Seulement lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? » Ah, il faut avoir la foi que Dieu va s'occuper de la situation. Je n'ai pas besoin de la prendre en main puis de me faire justice moi-même. J'ai la foi que Dieu va s'occuper de moi dans l'injustice que je peux vivre. Et alors, tu deviendras une personne douce, aimable, pas réactive à toute injustice réelle ou perçue envers ta personne. Alors, la clé, c'est vraiment la vérité. Le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Troisièmement, comment devenir une personne qui prévient les conflits? On le voit ici dans le texte. Qu'est-ce qu'il dit, Paul? Verset 6. « Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu, adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance, c'est de cultiver une attitude de reconnaissance toujours et partout. » Et il parle ici de soucis et donc d'anxiété. C'est quoi le lien entre l'anxiété et les conflits? C'est que lorsque tu deviens anxieux par rapport à quelque chose, tu as tendance à vouloir faire quoi? À prendre les choses en main, à prendre le contrôle de la situation. Certaines choses vont te rendre anxieux, d'autres non. Certaines choses vont me rendre anxieux, d'autres non. Mais lorsque je suis anxieux, j'aurai tendance à faire quoi? À prendre le contrôle, à imposer des conditions, des solutions, des moyens, selon mon raisonnement, mais qui sont potentiellement désagréables ou nuisibles ou irrespectueux envers les autres alentours. Le résultat? Conflit. Conflit. Alors, l'anxiété. Comment vaincre une tendance naturelle de prendre le contrôle des choses? Le texte nous dit, il faut d'abord reconnaître. Reconnaître que tu es anxieux ou anxieuse par rapport à une situation quelconque. La meilleure chose à faire lorsque ça ne tourne pas rond dans ton cœur, c'est de t'arrêter et dire, Seigneur, ça ne marche pas, je ne sais pas ce qui se passe, montre-moi qu'est-ce qui se passe dans mon cœur. Parce que souvent, on ne sait même pas qu'est-ce qui se passe. Souvent. La Bible dit qu'on est des aveugles spirituellement, on est aveugles aussi émotionnellement. Le péché a affecté tout notre être. Et là, on ne sait pas ce qui tourne pas rond, mais on agit, puis ça ne marche pas, ça cause des conflits, on ne sait pas pourquoi. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Montre-le-moi. Et la deuxième chose à faire, selon le verset, c'est de quoi? Faire connaître notre besoin à Dieu. Et là, des fois, ça prend de l'humilité, hein, parce que c'est humiliant de dire, Seigneur, je suis anxieux par rapport à telle et telle situation. On ne veut pas. On ne veut pas nécessairement avouer notre faiblesse. On ne veut pas se l'avouer à nous-mêmes, des fois. Puis on ne veut pas l'avouer à Dieu. Mais de faire connaître nos besoins à Dieu, aussi banal qu'il puisse paraître, s'ils te causent l'anxiété, ils sont assez importants pour les amener à Dieu. Exemple, je veux que mes enfants m'aiment. Je veux que mes enfants m'aiment. Mais là, ça peut produire une anxiété dans mon cœur. Que là, il faut que je fasse telle et telle affaire, telle et telle chose pour qu'ils soient contents, pour qu'ils m'aiment. Ou je veux être capable de réussir tel projet. Ou un ministère dans l'Église. Et là, ça me crée de l'anxiété. Et là, si je ne reconnais pas que j'ai de l'anxiété, ben, je vais essayer de prendre les choses en main, d'imposer des conditions, des solutions de ma propre pensée qui ne sont pas nécessairement de Dieu. Oh, je voudrais réussir à avoir assez d'argent pour payer mes factures. Et là, ça me crée de l'anxiété. Et là, je vais y aller par mes moyens. Et je vais poser des gestes qui ne sont pas sains pour moi ou pour ma famille ou pour mes frères et sœurs. Et je vais faire des compromis. Paul dit, sa solution, c'est de l'avouer à Dieu et de faire connaître tous tes besoins avec reconnaissance. La troisième chose, c'est non sans importance, c'est non la moindre, avec action de grâce ou avec reconnaissance. Comment le remercier pour quelque chose que tu n'as pas encore reçu? C'est l'enseignement de la Bible. Jésus dit, si tu demandes quelque chose à Dieu, crois que tu l'as déjà reçu. Et si tu l'as déjà reçu, tu vas faire quoi? Tu vas le remercier. Ça, c'est la foi, frères et sœurs. Tu as assez de foi, là, pour lui demander et même pour le remercier que tu l'as reçu. Abondez en actions de grâce, nous dit Paul dans Colossiens 2:7. Dans tout ce que vous pouvez faire, agissez au nom du Seigneur Jésus en remerciant Dieu le Père par lui. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Et là, au verset 7 de notre passage, quel sera le résultat? Alors la paix de Dieu. La paix, c'est le contraire de quoi? La guerre. C'est quand la guerre est pognée dans ton cœur que la guerre pogne autour de toi, là. Alors la paix de Dieu, hein, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dans la version sommaire, alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Quand tu es en colère ou tu es anxieux ou tu es insatisfait, tu ne conçois pas comment tu peux être en paix. Tu ne peux pas concevoir. Ça dépasse ta capacité de concevoir comment tu peux être en paix. Mais ici, il dit la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir. Parce que c'est surnaturel. Ça va venir habiter ton cœur. Habiter ton cœur. Ton cœur et tes pensées seront en paix sous la protection de Jésus-Christ. Tu ne seras plus à la merci de pensées angoissantes qui ne cessent de tournoyer dans la tête. Hein, vous savez de quoi je parle, là? Surtout la nuit, des fois, là, ça nous tourne dans la tête. Ça ne veut pas arrêter. Tu deviendras une personne paisible. C'est surnaturel. C'est Dieu qui le fera. Une personne paisible qui ne cause pas ni n'alimente les conflits, mais qui les prévient. Faire connaître les besoins, le remercier, et la paix de Dieu va venir habiter notre cœur. Donc, on a vu trois choses qui contribuent au conflit, comme trois éléments d'un feu. L'insatisfaction. Hein? Donc, c'est quoi l'antidote à l'insatisfaction? Se réjouir de tout ce que Dieu est pour vous en tout temps. D'être satisfait en Dieu, de tourner, ça demande un effort. Ça demande un effort. De se réjouir, d'être satisfait, d'être comblé. Tu nous rassasies, hein, comme dit Moïse, tu nous rassasies. La colère, c'est quoi la solution à la colère? La douceur. Et comment on devient une personne douce? Il faut amener notre colère à Dieu pour qu'il guérisse la source et ensuite de prendre conscience que Jésus est avec moi tout le temps, à chaque instant. Le Seigneur est proche, il me protège, il s'occupe, il va s'occuper de toute injustice qui peut m'arriver. Et troisièmement, l'anxiété. C'est quoi l'antidote de l'anxiété? Amener tous nos besoins à Dieu. Et avec reconnaissance, lui faire confiance qu'il s'occupe de nous. Donc, la meilleure façon de prévenir les conflits, c'est de me laisser transformer le caractère par le Seigneur Jésus. Puis, plus je me réjouis en lui et me laisse guérir de ma colère, de mon anxiété, plus je serai une personne joyeuse, douce et reconnaissante qui sème la paix autour de moi. J'essayais de penser un exemple pour terminer. dans la parole d'une personne comme ça. Et finalement, ce matin, le Seigneur m'a donné l'exemple d'Abigaïl. Abigaïl, dans 2 Samuel 24, je crois, 25. 2 Samuel 25. Vous connaissez l'histoire, David et ses hommes prennent soin des bergers au mari, à Abigaïl, Nabal, qui est un homme riche. Il les protège jour et nuit des maraudeurs, des voleurs de brebis, tout ça. Puis plus tard, lorsque la tonte des brebis arrive, si on veut la moisson de la laine, parce que là, tout le monde, c'est un temps de fête, de réjouissance, parce que là ils vont faire beaucoup d'argent avec la laine. Ben David envoie un messager, des messagers à Nabal pour demander, est-ce que tu aurais un peu, tu sais, de trop de pain là, que tu pourrais nous partager, des vivres? Il dit, pourquoi je ferais ça? Puis il y a beaucoup de serviteurs qui s'enfuient de leur maître en parlant de David avec Saül. David, qui pourtant était loin déjà, loin de l'Éternel, la personne choisie par Dieu de régner, il lui montre aucun respect, aucune reconnaissance. Et là, David se met en colère face à l'injustice dans sa tête. C'est une injustice. Parce que lui a donné, puis l'autre ne veut pas faire la même chose. C'est une injustice dans sa tête. Il réagit avec colère. Et là, il veut aller se venger. Là. Il va aller zigouiller Nabal et toute sa maison. C'est grave. Le feu est pris. Et là, Abigaïl, l'épouse de Nabal, elle apprend ça. Et vite, elle demande à ses serviteurs de charger la vanette, là, les chameaux. Au maximum, puis elle vient avec un présent pour David et ses hommes de nourriture, de toutes sortes d'affaires. Mais ce qu'elle dit, c'est remarquable. Et je termine avec ça. Dans 2 Samuel, au chapitre 25 et au verset 24. Je pense que j'ai fait une erreur, là. Oui, c'est ça. C'est peut-être 1 Samuel. Ah, c'est 1 Samuel, pardon. 1 Samuel 25 et verset 24. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit ceci. « Mon Seigneur David, fais comme si tout cela était ma faute. » Wow! Wow! Il parle d'enlever la poutre de ton œil, là. Elle met ça en pratique, hein? Permets à ta servante de t'adresser quelques mots d'explication et daigne écouter mes paroles. Que mon Seigneur ne fasse donc pas attention à ce bon à rien de Nabal, car vraiment il porte bien son nom. Il s'appelle Nabal, l'insensé, et c'est bien vrai qu'il est insensé. Moi, ta servante, je n'ai pas vu les serviteurs de mon Seigneur à envoyer, mais maintenant. Mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant, elle se tourne le regard vers Dieu, là. Premièrement, elle se tourne vers Dieu. Et que tu l'es toi-même, c'est l'Éternel qui t'a empêché de t'engager dans la voie du meurtre et de te venger toi-même. Elle voit la bonté de Dieu. Elle se réjouit de la bonté de Dieu, de la souveraineté de Dieu. C'est l'Éternel qui t'a empêché de t'engager dans la voie du meurtre et de te venger toi-même. Que les ennemis de mon Seigneur et ceux qui lui veulent du mal deviennent comme la balle. À présent, veux accepter ces présents de moi, ta servante. J'apporte à mon Seigneur les distribuer aux jeunes gens qui suivent mon Seigneur. Veuille aussi pardonner la faute de ta servante. Certainement, l'Éternel ne manquera pas d'accorder à mon Seigneur une dynastie stable, car mon Seigneur livre les guerres de l'Éternel. Et si l'on considère toute la durée de ta vie, on ne te trouve coupable d'aucun mal. Si quelqu'un s'avise de te poursuivre pour t'ôter la vie, l'Éternel, ton Dieu, gardera la vie de mon Seigneur, vois-tu? Exactement ce qu'on a lu dans Philippiens 4. Le Seigneur est proche. Elle dit, David, venge-toi pas. Le Seigneur va s'occuper de tes ennemis. Le Seigneur va s'occuper de tes ennemis. Le Seigneur est proche. Il est là. Verset 30. Lorsque l'Éternel aura accompli pour mon Seigneur tous les bienfaits qu'il t'a promis et qu'il t'aura institué comme chef d'Israël, la bénédiction, elle reconnaît la bénédiction.
Alors mon Seigneur n'aura ni remords ni troubles de conscience pour avoir tué quelqu'un inutilement et s'être vengé lui-même. L'Éternel fera du bien à mon Seigneur et tu te souviendras de ta servante. Voilà une personne de paix, une personne douce, une personne qui se réjouit dans l'Éternel, et une personne qui amène tous ses besoins à l'Éternel. Amen. Prions. Éternel notre Dieu, merci pour ta parole qui est notre lumière. Merci pour ton esprit aussi qui nous conduit dans toute la vérité, qui nous révèle ta pensée. Seigneur, ces vérités sont précieuses, sont profondes, si simples en même temps. Mais tu connais notre faiblesse, Seigneur. Tu sais comment est-ce qu'on est des auditeurs oublieux et comment on se détourne très facilement de tes voix. Viens en aide, Seigneur, à notre faiblesse. Seigneur, je te prie de faire une œuvre dans chacun de nos cœurs ce matin, de nous saisir de ta présence glorieuse, qu'on se rassasie de toi, Seigneur, à tous les matins, qu'on devienne des personnes comblées en toi, que tu guérisses, Seigneur, nos cœurs de toute colère, car tu es là, tu es proche. Oui, Seigneur, et qu'on puisse t'apporter toutes nos requêtes et avec reconnaissance, délivre-nous de l'anxiété qui vient nous faire trébucher tant. Seigneur, donne-nous cette foi, cette confiance en toi. On te prie. Au nom de Jésus. Amen.